Bonjour, je m'appelle Luna Bru, je suis élève de 3ème 7 au collège Marcel et Mar.
Bonjour, je m'appelle Vakerentia et je suis aussi élève en 3ème 7 au collège Marcel et Mar.
Nous allons nous interroger sur la liberté d'expression existe-t-elle dans les médias ? Les médias traditionnels comme la presse, la radio ou encore la télévision traversent le temps. Ils fascinent et occupent une place à part dans nos vies. Ils sont les garants d'une information fiable dans un monde où chacun semble appliquer ses vérités et ses contre-vérités. Une chose est sûre, ils ne laissent personne indifférent. En 2022, les plus grands conglomérats médiatiques en termes de revenus sont Comcast, NBC, Universal, The Walt Disney Company, Warner Bros., Discovery et Paramount Global. La liberté d'expression et celle des médias, aussi bien en ligne qu'en dehors de la sphère numérique, est indispensable à une société démocratique plurielle. Les médias jouent un rôle clé dans la diffusion d'informations précises et fiables pour garantir une participation éclairée des citoyens au débat public. Des conseils de l'Europe œuvrent en faveur d'un environnement respectueux de la liberté d'expression, fondé sur des garanties juridiques assurant l'indépendance et la diversité des médias, ainsi que la sécurité des journalistes et des autres acteurs des médias. Les principales limites de la liberté d'expression en France relèvent de deux catégories. La diffamation et l'injure d'une part, les propos appelant à la haine, qui rassemblent notamment l'apologie des crimes contre l'humanité, les propos antisémites, racistes ou homophobes d'autre part. Il faut éviter d'instaurer une censure privée arbitraire sans forme de contrôle, indépendant ou démocratique. Pour ces médias d'un genre nouveau, un cadre de responsabilité adopté reste à inventer, permettant à la fois de protéger l'ordre public et de préserver la liberté d'expression. Cependant, la liberté d'expression des médias va être entravée en temps de guerre. Les médias sont régulièrement interdits, restreints ou attaqués pendant les conflits.
La liberté d'expression dans les médias existe en principe dans de nombreuses démocraties. Mais sa réalité et son exercice varient selon les pays, les contextes politiques et les types de médias. Dans les sociétés démocratiques, cette liberté est protégée par la loi, ce qui permet aux journalistes, aux citoyens et aux médias d'exprimer librement leurs avis et d'informer sans limite. Cependant, cette liberté est parfois restreinte par des facteurs tels que certains régimes autoritaires ou semi-autoritaires exercent une pression sur les médias en limitant leur indépendance ou en censurant les informations qu'ils jugent sensibles. La concentration des médias entre les mains de quelques grands groupes peut limiter la diversité des points de vue quand les grands conglomérats médiatiques contrôlent une part importante de l'information. Cela peut créer une ruse dans la couverture de certains sujets. Les journalistes peuvent aussi pratiquer l'autocensure pour éviter les représailles ou pour se conformer à des normes de publicité ou des attentes économiques des entreprises médiatiques. Les médias peuvent être influencés par des intérêts commerciaux et financiers, ce qui peut affecter leur objectivité et leur capacité à traiter certains sujets en profondeur. Ainsi, bien que la liberté d'expression soit un droit fondamental, dans beaucoup de pays, son exercice dans les médias peut être limité par des facteurs externes ou internes.
Merci pour votre écoute.
Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir de la radio. Depuis sa création au début du XXe siècle, la radio a occupé une place centrale dans la diffusion de l'information, de la culture et du divertissement en dépit. De l'essor des nouvelles technologies et des médias numériques, la radio garde un pouvoir unique capable de toucher un large public instantanément et de créer des liens puissants avec ses auditeurs. Grâce à son accessibilité, sa diversité de contenu et son immédiateté, la radio demeure un outil incontournable pour informer, sensibiliser et divertir. Donc, nous allons parler des points positifs et négatifs. Pour les points positifs, la radio est accessible à presque tout le monde, que ce soit via les appareils traditionnels ou des applications en ligne. Il suffit d'avoir un récepteur ou un smartphone pour écouter la radio. La radio permet de diffuser des informations en temps réel, que ce soit pour des actus locales, nationales ou internationales, des alertes météo, des informations sur la circulation. La radio propose une grande variété de programmes musique, interviews, débats, émissions culturelles, ce qui satisfait le public.
Alors aujourd'hui, nous allons parler des aspects négatifs de la radio. La radio est une chaîne d'information qui a des coûts élevés d'équipement. Cela nécessite un grand investissement et d'acheter de nouveaux appareils. La réception est limitée et le signal sont des problèmes récurrents malgré les avancées technologiques. Le signal peut se dégrader en fonction de la géographie locale et ses conditions météorologiques. Il existe certains endroits où l'accès limité dans certaines régions en campagne par exemple, les infrastructures nécessaires sont moins développées, ce qui force aux habitants de devoir écouter la radio analogique traditionnelle pour rester informés. La qualité sonore en question dépend directement du débit utilisé par les stations émettrices. Les stations compressent parfois le signal audio pour gagner en capacité de transmission. Cette compression peut entraîner une perte de détails subtile que seuls les amateurs audiophiles pourraient percevoir généralement. Le risque d'absence de signal, contrairement à une station FM, où le son pourrait devenir de plus en plus faible en cas de mauvais signal, ou complètement de fonctionner lorsqu'il y a une rupture de signal forçant aux auditeurs à retrouver manuellement une fréquence normale. Ce phénomène est problématique lors des déplacements en voiture ou en train où la connexion au réseau pourrait être peu détectable, laissant les auditeurs à subir des coupures fréquentes. Et aujourd'hui, la radio est de moins en moins écoutée de nos jours, surtout les jeunes. La particularité des personnes qui écoutent la radio sont des personnes âgées ou des personnes du travail. Surtout, la nouvelle génération n'écoute plus la radio. Merci de nous avoir écoutés.
Bonjour, je m'appelle Charlie.
Et moi, Yasmine. Nous sommes élèves de 3e du collège Marcel Aymard.
En quoi la radio a participé à la victoire des Alliés lors de la Seconde Guerre mondiale ? En 1939, l'Allemagne nazie, alliée avec l'Italie fasciste de Mussolini, ainsi qu'avec le Japon, forme l'Axe. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne, puis l'Ouest de l'Europe, composée de la France, le Luxembourg, la Belgique ou bien encore les Pays-Bas, en mai 1940. Après la défaite de juin 1940, la radio va devenir l'instrument d'une guerre des ondes opposant la résistance avec Radio Londres et les forces d'occupation allemandes avec Radio Paris et Radio Vichy. Suite à l'appel du général de Gaulle, le 18 juin 1940, les radios s'organisent progressivement en Outre-Atlantique ainsi que dans les colonies françaises et anglaises.
Mais où la radio était-elle utilisée ? La radio était surtout utilisée dans les pays alliés, d'abord à Londres, la BBC, qui était le centre principal des émissions, c'est elle qui diffusait les programmes et envoyait des messages à la résistance. Ensuite à Moscou, Radio Moscou, qui servait à diffuser des messages en Europe de l'Est pour lutter contre l'occupation nazie. Enfin à Washington, Voice of America, qui permettait de transmettre des nouvelles des alliés et d'informer les populations occupées. Mais il n'y avait pas que ces grandes radios. Il existait aussi des radios clandestines utilisées par la résistance. Ces radios étaient bien cachées pour éviter d'être repérées par les Allemands.
Par qui et dans quel but les radios ont-elles été utilisées ? Grâce aux radios, les résistants peuvent se parler entre eux pour organiser des opérations. Les radios permettent aux Français de se parler secrètement grâce à des messages codés. Radio Londres permet aussi d'insister la France libre à se rebeller contre l'opposition allemande. Radio Paris et Radio Vichy, dirigés par les Allemands, permettent d'essayer d'intercepter des messages que s'envoient les résistants afin d'essayer de décrypter certaines informations. Pour les deux camps, les radios permettent aussi de faire de la propagande afin de faire accepter un ensemble d'idées à la population française, car lors d'une guerre, avoir la population de son côté est un atout majeur. Comme dit précédemment, le 18 juin 1940, le général de Gaulle récite son premier discours surnommé « L'appel du 18 juin » via Radio Londres. Lors de cet appel, le général français s'adresse à tous les militaires, ingénieurs ou ouvriers français spécialistes de l'armement se trouvant en territoire britannique à se mettre en rapport avec lui pour continuer le combat contre le Troisième Reich. Ce programme fut diffusé à 22h sur la BBC, qui est un radiodiffuseur britannique fondé en 1922. Le 1er juillet 1944, la BBC inonde les ondes avec plus de 200 messages codés à destination de la résistance française, certains d'entre eux communiqués par les états-majors alliés. Le plus souvent, la résistance avait au préalable pris connaissance de ces derniers grâce à d'autres messages transmis en morse.
Mais comment la radio était-elle mise en place ? Les grandes stations officielles étaient équipées de puissants émetteurs qui permettaient de transmettre des messages à longue distance. Pour éviter que les Allemands ne brouillent leurs ondes, ils utilisaient les ondes courtes qui étaient plus difficiles à intercepter. De leur côté, les radios clandestines de la résistance fonctionnaient avec du matériel beaucoup plus discret. Ces radios étaient cachées dans les caves, des greniers ou même des camions pour ne pas être découvertes. Pour échapper aux Allemands, les résistants faisaient des émissions très courtes afin d'éviter d'être localisés. Mais comment les messages étaient-ils transmis ? Pour envoyer les messages aux résistants, les alliés utilisaient souvent des phrases codées qui semblaient banales mais qui avaient une signification précise. Mais la radio ne servait pas qu'à la résistance. Elle était aussi utilisée par les militaires, notamment dans la marine et l'aviation, pour coordonner les opérations. Pour encore plus de discrétion, ils utilisaient parfois des messages en morse, un code composé de bips qui empêchait les ennemis de comprendre. Plusieurs messages diffusés pendant la guerre ont marqué l'histoire. D'abord, le 5 juin 1944, la BBC a diffusé la phrase « Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone ». C'était un signal pour la résistance qui annonçait le débarquement imminent en Normandie. Ensuite, le 8 juin 1945, la BBC a annoncé la victoire des Alliés avec cette phrase « L'Allemagne nazie a signé sa reddition, la guerre est finie ». Ce message était très important car il a permis d'informer les populations libérées de la fin de la guerre. Enfin, un autre message très célèbre qui a été diffusé pendant la guerre, l'appel du 18 juin 1940 de Charles de Gaulle, est le premier message marquant de la radio.
En conclusion, pendant la Seconde Guerre mondiale, la radio a joué un rôle crucial en France. Elle est devenue un outil de pouvoir politique, avec environ 4 millions de Français possédant un émetteur radio en 1939. Après la défaite de 1940, la radio a servi de plateforme pour la résistance, notamment avec Radio Londres qui s'opposait à Radio Paris et Radio Vichy, créant ainsi une véritable guerre des ondes. La radio a également été utilisée par les nazis pour propager leur propagande. Voici un message connu, diffusé pendant la Seconde Guerre mondiale, du général Charles de Gaulle.
J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi.
Merci beaucoup de votre attention.
Radio Paris, la voix de la propagande allemande entre les années 1940 et 1944. Pendant l'occupation, Radio Paris devient un instrument majeur de propagande nazie en France réquisitionnée par les Allemands dès 1940. La station diffuse un discours collaborationniste visant à manipuler l'opinion publique et à discréditer la résistance. Un outil de désinformation, Radio Paris est contrôlé par la propagande nazie et diffuse de fausses informations visant à démoraliser la population. Des chansons et slogans de propagande, notamment le célèbre Radio Parisment, Radio Paris est allemand, repris par la résistance pour dénoncer ces mensonges. La voix de la collaboration, deux figures emblématiques marquant la station. Jean-Hérol Péqui, connu pour ses discours haineux, concluant souvent par l'Angleterre comme à Carthage sera détruite. Philippe Herriot, ministre du régime de Vichy, qui utilise Radio Paris pour attaquer la résistance et glorifier Pétain. La fin de Radio Paris. Détesté par la population et saboté par la résistance, Radio Paris cesse d'en mettre en août 1944, lors de la libération de Paris. Ces figures emblématiques seront exécutées pour collaboration.
Bonjour à tous, aujourd'hui je suis en compagnie d'Alan, comment vas-tu ?
Ça va très bien et toi ?
Ça va super, aujourd'hui nous allons voir comment les radios pirates ont-elles permis de contourner la censure et de défendre la liberté d'expression. Premièrement, il faut savoir que la radio a toujours été un moyen important pour informer et divertir les gens. Cependant, à certaines époques, les gouvernements ont contrôlé et interdit certaines musiques ou idées. C'est dans ce contexte que des radios illégales appelées radios pirates se sont développées.
Comment ça des radios pirates ? C'était des radios où on interviewait des pirates ?
Ah, elle est pas mal celle-là, mais ce n'est pas du tout ça. En fait, ces radios permettaient d'accéder à des informations et à des voix qui étaient interdites.
Il faut aussi savoir que les radios pirates sont apparues quand les médias officiels étaient surveillés ou censurés.
Ah bon ? Et tu aurais des exemples ?
Oui, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, des résistants utilisaient des radios secrètes pour informer la population et transmettre des messages codés. Elle permettait ainsi de contourner la propagande des nazis et diffuser une information libre.
Ensuite, en Angleterre, dans les années 1960, une radio pirate très connue s'appelait Radio Caroline. Elle diffusait du rock et de la pop, des musiques très appréciées des jeunes, mais que la radio officielle britannique refusait de passer. Pour échapper à la loi, Radio Caroline a installé ses émetteurs sur un bateau en pleine mer et est devenue très populaire. Grâce à cette radio, des musiques interdites ont pu être entendues par le public. En France, dans les années 1970, il était interdit de créer des radios indépendantes, car l'État contrôlait toutes les fréquences avec un organisme appelé l'ORTF.
Mais c'est quoi l'ORTF ?
L'ORTF, c'est l'Office de Radiodiffusion Télévision Française.
Certaines radios comme Radio Verte ou Radio Lorraine Cœur d'Acier ont décidé de défier cette interdiction. Ces radios donnaient la parole aux citoyens, aux ouvriers et aux artistes engagés, qui n'avaient pas accès aux médias traditionnels. Elles permettaient ainsi aux gens d'entendre d'autres idées et de défendre leurs droits. Finalement, grâce à ces radios, la censure a commencé à disparaître. En 1981, le président François Mitterrand a autorisé les radios libres, c'est-à-dire des radios indépendantes, qui ne sont plus contrôlées par l'État. C'est ainsi que des stations comme Energy ou Skyrock ont pu se développer, offrant une plus grande liberté d'expression à la radio.
Aujourd'hui, même si les radios pirates ont presque disparu, leur esprit continue d'exister sur Internet. Des web radios, des podcasts et des médias indépendants permettent encore de partager des idées librement sans être contrôlés par de grandes entreprises ou des gouvernements. Ok, c'est très intéressant tout ça, mais est-ce que tu pourrais me faire un petit résumé ?
Alors pour résumer tout ça, je dirais que les radios pirates ont donc été un moyen de contourner la censure et de défendre la liberté d'expression. Elles ont permis de diffuser des musiques et des idées interdites et ont contribué à la diversité des médias d'aujourd'hui. Même si elles n'existent plus vraiment, leur combat pour une information libre continue sous d'autres formes.
Nous sommes les élèves du collège Marcel Aymar, Léane
et Lucas.
Aujourd'hui, nous allons vous expliquer ce qu'est une radio associative dans le contexte d'un petit documentaire radiophonique sur notre sujet principal, médias et résistance.
Pour commencer, qu'est-ce qu'une radio associative ?
C'est une station radio ne cherchant pas à gagner de l'argent pour soi-même, mais pour le fonctionnement de la radio.
Mais comment sont-elles apparues ?
À l'époque, les radios libres ou radios pirates étaient inspirées des idées de révolution de mai 1968.
Qui s'en est occupé ?
Les militants de ces radios n'aimaient pas que l'audiovisuel et la pub soient gérés par l'État, n'allant pas avec les idées de gauche.
Quel était donc leur but ?
Elles voulaient supprimer la différence entre professionnels et amateurs, pour offrir la parole à tous en créant des radios populaires, innovantes, culturelles et variées dans leur contenu. Mais elles étaient illégales et brouillées par l'État. Aux élections de 1981, elles sont devenues légales.
Et au niveau des lois ?
Le statut associatif les interdit d'émettre un avis politique et d'être rémunérées. Ce sont des radios locales et indépendantes qui n'ont pas de financement publicitaire. Mais des changements de loi les ont encouragées à abandonner ce statut. Quelques-unes d'entre elles sont cependant restées fidèles à leur premier engagement. Par exemple, à la fin des années 1980, elles étaient moins de 300 et en 2024, 500. Depuis les années 2000, l'État veille à ce qu'une part des fréquences radiophoniques soit attribuée aux radios associatives et non privées.
Quelles sont les radios associatives d'Aveyron ?
Il y a par exemple Radio Larzac, Radio Sainte-Afrique et Radio Cisba. Ces radios créent de nouveaux postes comme directeurs de programme, des journalistes, des programmateurs, des réalisateurs, des techniciens audio, mais encore plein d'autres. Elles emploient près de 3000 salariés français et plus de 8000 dans le monde. Pour finir, les radios associatives représentent plus de 20% des programmes diffusés en FM.
Merci pour votre écoute.
Bonjour, je suis Ethan Ambeck et je suis un élève en 3e 7 au collège Marcel Aymar.
Bonjour, je m'appelle Sacha Roubi, je suis élève de 3e 7 au collège Marcel Aymar.
On va vous expliquer quelle est la place de la publicité dans la radio.
La publicité joue un rôle crucial dans le domaine de la radio, à la fois comme source de financement et comme moyen de communication. Voici quelques points clés pour comprendre sa place.
Premièrement, la publicité est souvent la principale source de revenus pour les stations de radio, notamment celles qui sont privées. Elle permet de couvrir les coûts liés à la production et à la diffusion, à l'entretien des équipements.
Deuxièmement, en diffusant des publicités pour des entreprises locales ou nationales, la radio contribue à la promotion des produits et services. boostant ainsi des activités commerciales et économiques.
Troisièmement, la radio a l'avantage de pouvoir s'adresser à des auditeurs spécifiques selon les plages horaires ou les formats d'émission. Les annonceurs utilisent cette capacité pour toucher leur public.
Quatrièmement, la publicité radio repose largement sur des messages audio créatifs, souvent accompagnés de musique, de jingles ou de voix mémorables. Cela peut renforcer l'identité des marques et de la reconnaissance.
Cependant, certaines critiques existent, notamment lorsque les publicités sont nombreuses ou intrusives, ce qui pourrait alterner l'expérience des auditeurs. En interrompant les programmes, elles brisent l'expérience d'écoute et peut agacer les auditeurs qui recherchent avant tout une immersion dans la musique ou les discussions. Ces interruptions fréquentes réduisent la qualité perçue du contenu radio.
De plus, la publicité peut exercer une influence sur les choix éditoriaux des stations. Les émissions qui attirent un large public sont privilégiées, souvent en déterminant des contenus plus riches ou culturels. Cela peut limiter la diversité des programmes proposés et réduire l'accessibilité à des débats ou contenus éducatifs moins populaires.
Enfin, certaines publicités répètes ou mal ciblées peuvent créer un sentiment de saturation chez les auditeurs. Contrairement aux radios qui mettent des publicités, Radio Larzac est une radio associative et qui ne diffuse pas de publicité commerciale. Elle privilégie des expériences alternatives et s'inscrit dans une dynamique de mouvement social en mettant en avant des initiatives locales et culturelles.
Cela reflète son engagement envers une approche indépendante et communautaire.
Pour conclure, la publicité occupe une place centrale dans le paysage radiophonique.
Elle constitue une source essentielle de financement pour les stations, permettant la production et la diffusion des programmes. En ciblant des audiences spécifiques, elle établit un lien stratégique entre les annonceurs et les auditeurs.
Cependant, un équilibre est nécessaire pour préserver l'expérience d'écoute, car un accès de publicité peut détourner les auditeurs. Ainsi, la publicité est un pilier du fonctionnement économique de la radio, tout en devant s'inscrire dans une démarche respectueuse de son public.
Merci de votre écoute.
Bonjour, je me présente, je m'appelle Ben Paliès et je suis élève au collège de Marcel Aymar en 3e 7.
Bonjour, je m'appelle Nid Albar, je suis élève de 3e 7 à Marcel Aymar.
Aujourd'hui, nous allons nous poser la question jusqu'où peut aller le pouvoir despotique de la télévision et de son emprise sur les esprits. Pour répondre à cette question, nous allons nous appuyer sur le film The Truman Show.
Qu'est-ce que c'est que The Truman Show ?
Sorti en 1998, The Truman Show est une œuvre à la fois touchante, perturbante et insolite qui nous plonge dans une émission TV ayant pour but la diffusion constante et sans aucun montage de la vie d'un homme, capté par un réseau de plus en plus dense de caméras cachées.
Le rôle important de la télévision et de son visionnage dans la vie des gens.
En effet, la télévision prend de plus en plus de place dans nos vies et vient jusqu'à jouer un rôle majeur dans celle-ci. Dans The Truman Show, Peter Weir, le réalisateur, marque l'importance du visionnage du show dans la vie de milliards de personnes à travers le monde. Le quotidien de Truman devient alors le quotidien de ces personnes-là.
L'aspect marketing présent à travers la télévision.
L'argent est en partie le but de ce show, car comme il est dit dans le film, The Truman Show produit beaucoup de bénéfices, l'équivalent d'un petit pays. De plus, tout ce qui est dit et vu à l'écran est à vendre, habits, produits dérivés et même maisons. Cet aspect de l'émission fait une belle allusion aux publicités encourageant une consommation de la part de l'être humain souvent excessive. Les caméras encouragent-elles une sorte de voyeurisme ?
Avec les technologies grandissantes, nous sommes de plus en plus surveillés sans nous en rendre compte. The Truman Show est une sorte de mise en garde qui nous montre jusqu'où la technologie peut s'incruster dans nos vies et comment elle peut être utilisée pour nuire à notre intimité. De nos jours, les caméras prennent une grande place dans nos vies privées. Il peut y en avoir sur nos appareils électroniques, téléphones, ordinateurs, portables, télévisions. Ces caméras peuvent aussi servir à la surveillance des lieux publics et de travail, entreprises et gros bâtiments, cinémas, magasins, hôpitaux, prix et parfois même voitures. En gros, nous sommes constamment observés et c'est le point majeur de The Truman Show, les caméras. Il nous est dit que l'émission est composée de plus de 5000 caméras prêtes à capter le moindre mouvement de Truman, certaines allant même jusqu'à être placées dans une taille crayon. De cette façon, Truman est constamment surveillé et les milliards de téléspectateurs profitent du spectacle.
Mais peux-tu nous dire quelles importances les gens attachent-ils à la télé-réalité ?
Qu'est-ce que c'est que réellement la télé-réalité ? Une simple émission ayant pour but de nous distraire ou alors une vie autre que la nôtre, mise en scène, derrière une caméra qui nous permet de sortir de notre quotidien ? On compte plus de 600 émissions de télé-réalité différentes diffusées dans le monde entier. Plus de 36% des Américains regardent la télé-réalité. Ces chiffres nous montrent l'importance de la télé-réalité aux yeux des gens. Mais qu'est-ce qui les attire le plus ?
L'aspect comique parfois présent dans celle-ci.
Ou au contraire ?
Les conflits qui sont souvent le point fort des émissions.
Les gens aiment la télé-réalité car ils n'ont pas besoin de réfléchir. Ils n'ont qu'à observer, ils peuvent donner leur préférence, juger le choix des joueurs et parfois même voter.
Les émissions de télé-réalité leur donnent l'opportunité de changer le cours du show et de s'identifier à travers les personnages. De cette façon, ils éprouvent en quelque sorte de la satisfaction.
Merci de votre écoute.
Vers le moment où la souffrance des autres ne leur suffit plus, il leur en fallut le spectacle.
Pensez-vous qu'Amélie Nothomb cherche à exposer son plaisir face à la souffrance, à la société, ou vise-t-elle plutôt à dénoncer cette souffrance et le voyeurisme qui l'accompagne dans nos sociétés ?
Bonjour. Tout d'abord, commençons par une rapide entrée dans le contexte. Amélie Nothomb est une autrice contemporaine célèbre pour ses romans souvent provocateurs, qui interrogent les travers de notre société. Acide sulfurique, publié en 2005, est une œuvre marquante et dérangeante qui suscite de vifs débats. Le livre raconte une émission de télé-réalité fictive appelée Concentration, où des individus sont capturés et enfermés dans des conditions inhumaines, inspirées des camps de concentration nazis. Les participants, appelés ex, sont soumis à des humiliations et leur sort est décidé par le vote des spectateurs. Mais d'ailleurs, vous vous demandez sans doute pourquoi le livre s'appelle « Acide sulfurique ». Eh bien, car le titre symbolise la violence et la cruauté extrême du roman comme un acide qui détruit tout, les corps, les valeurs et l'humanité.
À travers cette histoire, Amélie Nothomb dresse un portrait glaçant des médias et des dérives de la télé-réalité. Elle nous pousse à réfléchir sur la manière dont ces phénomènes influencent nos comportements, nos valeurs et notre humanité. Nous nous posons donc la question suivante. En quoi Acide sulfurique dénonce-t-il les dérives des médias et de la télé-réalité dans nos sociétés contemporaines ?
Pour répondre à cette problématique, nous allons examiner trois points.
Petit 1, la manipulation des émotions et des audiences pour les médias.
Petit 2, la déshumanisation des participants dans la télé-réalité.
Petit 3, la responsabilité des spectateurs face à ces dérives.
La manipulation des émotions et des audiences par les médias. Dans le roman, l'émission Concentration représente une version extrême de ce que certains médias font déjà dans la réalité, manipuler les émotions pour capter l'attention. Le choix d'un contexte rappelant les camps de concentration est volontairement choquant et absurde, et illustre la manière dont les producteurs de contenu repoussent toujours plus loin les limites pour retenir leur public. Dans le roman, les scènes de violence, d'humiliation et de souffrance sont montées pour maximiser les réactions des téléspectateurs. Cela reflète les méthodes des médias modernes, où les faits sont parfois exagérés ou manipulés pour créer du buzz. Ainsi, Amélie Nothomb critique cette quête effrénée d'audience qui pousse les médias à exploiter les émotions humaines, quitte à déformer la télé-réalité et à ignorer toute éthique. On trouve des exemples similaires dans des émissions de télé-réalité ou dans certaines formes de journalisme sensationnaliste.
La déshumanisation des participants dans la télé-réalité. Acide sulfurique montre aussi comment les médias influencent les émotions et les opinions du public. Dans Acide sulfurique, les participants, les ex, sont réduits à des numéros, dépouillés de leur identité et de leur dignité. Ces procédés déshumanisants est une critique des émissions où les participants deviennent des objets de divertissement. Cela permet de créer des scénarios attrayants pour le public, mais au prix de la santé mentale et du respect des participants. Amélie Nothomb pousse cette logique à l'extrême pour dénoncer les dangers d'une société où le divertissement prime sur l'humanité. En lisant ce roman, on peut faire parallèle avec certaines émissions de télé-réalité contemporaines, où les candidats sont souvent poussés au bout psychologiquement, parfois pour des audiences records. Ce phénomène soulève des questions sur nos valeurs et sur les limites à ne pas franchir.
La responsabilité des spectateurs face à ces dérives. Enfin, un élément central du roman est la responsabilité des spectateurs. Dans Acide sulfurique, ce sont les spectateurs de l'émission qui votent pour déterminer quels ex seront éliminés. L'autrice montre ainsi que ce système cruel ne pourrait exister sans la complicité du public. Cela reflète une vérité universelle. Les médias produisent ce que leur public consomme. Si nous continuons à regarder des contenus qui exploitent la souffrance humaine, nous encourageons indirectement ces pratiques. Amélie Nothomb nous appelle donc à prendre conscience de notre rôle en tant que consommateurs de médias. Elle souligne l'importance d'être critique et responsable dans nos choix et de refuser de cautionner des dérives contraires à nos valeurs humaines. Cette réflexion est particulièrement pertinente aujourd'hui, à une époque où les réseaux sociaux amplifient ces phénomènes. Une œuvre qui nous interpelle sur notre rôle.
En conclusion, Acide sulfurique est bien plus qu'un roman. C'est un miroir tendu à notre société qui nous invite à réfléchir sur les dangers des médias et de la télé-réalité. Amélie Nothomb dénonce avec la force la manipulation des émotions, la déshumanisation des individus et notre propre responsabilité en tant que spectateurs. Ce livre nous pousse à nous interroger. Voulons-nous rester passifs face à ces dérives ou devenir des acteurs d'un changement pour des médias plus respectueux et éthiques ?
Bonjour, je m'appelle Alice.
Et moi, je m'appelle Maya. Nous allons vous expliquer comment les médias peuvent empêcher presque toute forme de résistance dans le livre 1984. 1984 est un roman dystopique écrit par George Orwell. Les médias jouent un rôle majeur dans le maintien du contrôle totalitaire du parti. Mais quel rôle jouent les téléécrans ?
Les téléécrans sont omniprésents dans la vie des citoyens. Ils diffusent continuellement des messages de propagande ainsi que des informations censurées. Les médias contribuent à manipuler la population en montrant des reportages sur des menaces extérieures. Cela incite les habitants à se tourner vers le parti pour se protéger. Les moyens de communication sont mis en œuvre pour faire passer un certain nombre de slogans qui poussent les citoyens à adhérer au parti. De plus, la liberté d'expression est inexistante. Les livres, les journaux et les documents historiques sont systématiquement réécrits. Ainsi, toute forme de vocabulaire pouvant inciter à un éventuel soulèvement est supprimée. Mais qu'enseignent les médias aux jeunes ?
Les médias enseignent aux jeunes la loyauté absolue envers le parti et les encouragent même à dénoncer leurs propres parents, coupant ainsi les liens familiaux qui pourraient servir de fondation à une quelconque rébellion.
Winston, le personnage principal, travaille au ministère de la Vérité où il est chargé de réécrire des articles de faits historiques, mais il se charge aussi d'effacer toute trace d'individus qui ont trahi le parti. Leurs noms et photos sont ainsi supprimés dans tous les documents. Mais est-ce que tous les citoyens partagent les opinions du parti ?
Malgré tout, les moyens mis en œuvre par le parti, quelques personnes s'opposent au régime. Parmi elles se trouvent Winston Smith et Julia qui commencent à remettre en question l'autorité du parti. Winston se procure un journal intime où il écrit les informations sur l'ancien régime politique. En faisant cela, Winston enfreint la loi car il est interdit de posséder un journal intime. En se voyant en secret, les deux personnages montrent petit à petit une résistance à l'encontre du parti. Ils organisent plusieurs réunions où ils échangent des informations contradictoires à ce dernier. Ils finissent par planifier une rébellion, mais ont-ils pu accomplir leur rébellion ?
Eh bien non, Winston et Julia n'ont pas pu exécuter leur révolte. Leur résistance a rapidement été détectée par le parti. Un téléécran les a filmés lors d'une réunion clandestine. Ils sont arrêtés et torturés sans pitié pour les forcer à avouer leurs crimes. Malgré les nombreuses violences subies, Winston et Julia refusent de renoncer à leur résistance. En somme, dans le livre 1984, les médias jouent un rôle crucial dans le maintien du contrôle totalitaire du parti. En diffusant une propagande constante et en censurant les informations qui s'opposent au régime, les médias créent un sentiment de solitude chez les opposants.
À cause de la surveillance constante due aux téléécrans, chaque individu a peur d'être pris en train d'avoir des pensées non conformes au parti, ce qui neutralise les actions de résistance avant qu'elles ne puissent se manifester. Merci pour votre écoute.
Bonjour, je m'appelle Marwan, je suis un élève de 3ème 7 au collège Marcel-Aymard.
Bonjour, je m'appelle Yovan, je suis un élève de 3ème 7 aussi au collège Marcel-Aymard.
Aujourd'hui, nous allons parler du jeu Hunger Games. Nous allons nous interroger sur la question « Pourquoi ce jeu est-il filmé ?»
Mais avant tout, qu'est-ce que le jeu Hunger Games ?
Hunger Games, le jeu de la faim, est inspiré de télé-réalité. Il y a 12 districts et 2 candidats vont être tirés au sort afin de participer aux 74 Hunger Games. Le but est de se débarrasser des autres et d'être le dernier ou la dernière à survivre. Hunger Games a été écrit par Suzanne Collins en 2008. Quel est le but de filmer Hunger Games ?
Alors le but de filmer le jeu étant d'instaurer le contrôle et l'intimidation. Le capital utilise les jeux comme un outil de contrôle pour maintenir son pouvoir sur les districts en montrant la brutalité et la violence des jeux. Le capital installe la peur et la soumission chez les habitants, mais aussi de faire la propagande. Les jeux servent de spectacle pour glorifier le capital et sont autorisés. Ils sont présentés comme un événement grandiose et divertissant. Ainsi, l'intention de citoyens des injustices et d'inégalités.
Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.
Au revoir.
Aujourd'hui, nous allons nous questionner sur comment l'engagement de René Silva montre l'impact des jeunes sur les injustices sociales et environnementales. Nous allons d'abord voir qui est René Silva et qu'est-ce qu'il a réalisé, puis nous allons répondre à cette question.
René Silva est originaire du Brésil. Il est né et a grandi dans les favelas en plein conflit entre les gangs et l'État. Pour se sortir de cette situation dangereuse et de son mode de vie risqué, il a lancé un journal avec ses frères à l'âge de 11 ans pour montrer à son pays que les favelas étaient un endroit dangereux où on ne pouvait pas y vivre.
Son journal connut un grand succès. De plus en plus de personnes venaient pour raconter ce qu'ils avaient vécu dans les favelas ou ce qu'ils vivaient en temps réel. De plus en plus de personnes lisaient et donc apprenaient ce qu'il se passait aux favelas. Avec le succès de son journal, René Silva ne s'arrête pas là puisqu'il se lance dans la radio. Il connut le même succès que son journal car de plus en plus de personnes se faisaient interviewer et passer à la radio. Grâce à tous ces efforts de René Silva dans les médias, l'État prit plus au sérieux les favelas et ces histoires de gangs qui rendaient cet endroit du Brésil dangereux et invivable. L'État a réussi à régler ces conflits avec des moyens de plus en plus violents.
L'engagement de René Silva nous a montré l'impact des jeunes sur les injustices sociales ou environnementales, avec tout son parcours. Il nous a montré que quand les adultes n'osaient pas démontrer certaines injustices, les enfants pouvaient le faire et que cela aurait autant d'impact, ou voire plus que si c'était un adulte. René Silva nous a montré que les enfants aussi pouvaient écrire des journaux ou faire des diffusions à la radio démontrant des injustices sociales et environnementales. Les médias peuvent donc servir à résister ou changer quelque chose qui paraît injuste.